Alors, comment ne pas évoquer Edgar Morin, qui est, on peut dire, votre compagnon de route dans ce film, puisque évidemment c'est votre regard, c'est vous qui accompagnez ces jeunes, mais il traverse le récit que vous nous proposez, par moments de manière très concrète, on le voit avec les jeunes, à Douai notamment, mais aussi à Paris, lorsqu'ils discutent dans un café, dans une très belle scène qui a d'ailleurs marqué une des élèves qu'on entend après et qui témoigne comme un bilan un peu de son voyage. Elle cite cette rencontre avec Edgar Morin, et aussi dans la bibliothèque. Alors moi qui suis bibliothécaire, je ne peux que vous féliciter d'avoir saisi ce moment où Edgar Morin parle des livres et parle de la fréquentation des bibliothèques. C'est une séquence qui, là aussi, personnellement, m'a particulièrement touché. Mais voilà, peut-être un mot sur ce livre que vous avez sorti de votre sac et que vous me proposez comme une référence importante pour compléter le propos. Les 7 savoirs nécessaires de l'éducation du futur.
À l'éducation du futur. Oui, effectivement, c'est un livre qu'Edgar Morin a écrit à la demande de l'UNESCO. Il a été édité d'abord par l'UNESCO en 1999, et c'est un livre à la fois complet, complexe et simple. Ce qui est une caractéristique de la pensée d'Edgar Morin, c'est d'évoquer des choses complexes et compliquées parfois, mais d'une manière très simple. Et dans ce livre, il aborde les différentes notions qui peuvent guider les enseignants et les non-enseignants à envisager autrement l'éducation, c'est-à-dire non pas à partir des matières, des cases, etc., mais en partant des principes. Des principes, par exemple, un des principes, c'est de se demander qu'est-ce qu'est la connaissance. Pas qu'est-ce qu'on connaît, mais qu'est-ce que la connaissance et comment on utilise cette connaissance, et d'évoquer les risques d'erreur et d'illusion qui doivent être à la base de cette connaissance. Il y a Descartes qui parlait du doute, donc c'est un peu un écho à cette pensée-là qu'il faut toujours pouvoir douter, ce qui ne nous empêche pas d'avancer. Et l'autre, par exemple, un autre principe qu'Edgar Morin mentionne dans ce livre, c'est celui de l'inattendu. Il cite notamment Euripide en tête d'un chapitre que je vais trouver. Voilà, c'est affronter les incertitudes. Parce qu'il dit l'avenir est incertain et comment on peut affronter les incertitudes. Et il cite Euripide qui dit: les dieux nous créent bien des surprises. L'attendu ne s'accomplit pas et à l'inattendu, un dieu ouvre la voie. Alors, ça c'est Euripide, et Edgar Morin dit: nous n'avons pas encore incorporé le message d'Euripide, s'attendre à l'inattendu. La fin du XXe siècle a été propice pourtant pour comprendre l'incertitude irrémédiable de l'histoire humaine. Et donc, ça c'est une grande leçon, et c'est ainsi que dans ce petit livre, c'est un livre très.
Très court, très dense.
Non, et très, ouais, très, très dense et court. Il a été réédité aux éditions du Seuil. Et c'est vraiment, ça vaut la peine de le lire. De même que le livre édité aux Actes Sud, qui est enseigné à l'infinitif à vivre, manifeste pour changer l'éducation, sont des livres, ils ont un savoir fondamental. Et donc Edgar Morin m'a bien entendu inspiré. Nous avons parlé, dialogué. Je connaissais d'autres écrits de lui, et bien entendu le film qu'il a co-réalisé avec Jean Rouch, Chronique d'un été. Et il s'agissait de faire un film où la question, non pas forcément du bonheur, mais de la liberté de penser, surgit. Et donc je suivis l'appel d'Edgar Morin pour commencer le film, et après Edgar Morin m'a laissé choisir et diriger les choses en intervenant, à mon avis, trop peu dans le cours du film, mais on fait avec ce qu'on a.
Alors, presque la fin de ce petit voyage en votre compagnie, vous propose encore un extrait qui serait peut-être un hommage à votre premier film, justement, Béaba, que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais beaucoup découvrir. C'est un petit poème de Gherasim Luca, un poète roumain qui a vécu à Paris. Il y aura la lecture de ce texte plus un autre extrait qui est un peu plus en amont du recueil. De l'alphabet au bétabé, de l'A au B, l'A au B tire la langue, de pendu. Dakar, en lumière de montagne, couteau suspendu au-dessus de sa tête, supérieur inconnu, la belle anonyme tire la langue à l'arc sensible. Sensible. Au cœur de Dakar, Monsieur K, vaque à ses affres. Et l'autre petit fragment que j'isole, et qui va, j'espère, faire réagir le cinéaste que vous êtes, « Ainsi, tout l'œil de l'idée se présente dans la position inverse du regard. Il semble également en veilleuse, car il ne s'ouvre que rarement. L'acte de regarder s'accomplit à l'intérieur, de manière fugitive et constante, et lorsqu'il s'accomplit, ne fait que s'avancer entre les fourchettes. »
Oui, d'ailleurs, le mot « idée » vient du mot « image », « imago ». Donc, « idée » et « image » sont réunis, et ça, c'est un grand signal pour le cinéaste que je suis, c'est-à-dire de lier les idées aux images. Et j'avais monté un cycle avec quelques-uns de mes films que j'ai intitulé « Filmer la pensée en marche » car il s'agit de ça, comment on peut, à travers le cinéma, filmer d'une manière intéressante et parfois captivante la pensée et la pensée qui marche. Donc, voilà, oui, je suis tout à fait d'accord avec le poète Luca, et je me suis efforcé autant que j'ai pu de suivre ce précepte, de lier les deux, la pensée qui s'exprime à travers les mots, mais aussi à travers les corps, et de réunir dans un triangle une parole, un corps et un décor. Donc le corps qui peut être un visage. Donc ces trois éléments font un peu mon bagage pour réaliser des films. Et dans le film que vous avez vu hier soir, Enseigner à vivre, à la parole s'ajoute la musique, qu'elle soit une balade irlandaise au lycée autogéré de Paris, que ce soit un cours d'atelier de musique à l'école de Crolly, que ce soit la musique même du film qui a été composé à l'image par Jacques Rémus, qui est un compositeur que j'admire et avec lequel j'ai travaillé sur plusieurs de mes films, dont un film que vous avez évoqué avant notre entretien, qui s'appelle Van Gogh, La revanche ambiguë, où c'est également Jacques Rémus qui a composé la musique. Donc voilà, il y a tout ça.